BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h. Bien, nous sommes là, fidèles au poste, en ce 23 décembre 2024. Bonsoir Edwige.
Bonsoir à vous.
On attend le gouvernement. On va voir la composition dans une demi-heure à 18h30. D'après nos confrères de BFM TV, Elisabeth Borne en sera, Manuel Valls en sera, Xavier Bertrand, lui, en revanche, n'en sera pas. Mais on va suivre tout ça,
c'est officiel,
sûr, dans la prochaine demi-heure, absolument. Votre invité, en attendant, va nous apporter un petit peu de rêve.
On en a vous me direz, lui, souvent, on a dit qu'il pourrait être ministre, c'est Stéphane Layani, il est le patron de Rungis. Rungis, bah, c'est le marché de Noël, c'est le marché des fêtes. C'était le jour, le soir, où de recevoir. Il veut nous expliquer un peu qu'est-ce que les Français recherchent pour ces fêtes et puis surtout comment s'est porté 2024, le mois de décembre, très important. Et puis, on parlera de souveraineté alimentaire et du Mercosur, les sujets qui fâchent.
C'est le grand rush du côté de Rungis.
Le grand rush.
Évidemment. Sinon, ce soir, on va parler de cette fusion entre Nissan et Honda qui, ça y est en discussion. Et puis, ça bouillonne dans la gestion d'activité. Mariage annoncé ce week-end entre BNP Paribas et AXA IM et plein d'autres choses apparemment continuent. Voilà le programme, l'actu éco ne prend pas de vacances et c'est tant mieux, on est ensemble jusqu'à 19h.
Good evening business, le journal.
Donc oui, ça avait commencé à fuiter la semaine dernière, puis c'est officiel depuis tout à l'heure. Nissan et Honda commencent à discuter officiellement d'une possible fusion. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Si ça se fait, ça donnera naissance, mine de rien, au numéro 3 mondial de l'automobile, Mathieu. Hein,
c'est... Oui, exactement. Sur le papier, c'est assez important, puisque Honda et Nissan cumuleraient à L2 près de 8 millions de véhicules vendus, en tout cas basés sur les chiffres de 2023, et donc le troisième constructeur mondial, derrière leur homologue, compatriote, Toyota et Volkswagen. Une fusion de plus de 45 milliards d'euros pour laquelle en réalité ce ne serait pas du tout une fusion entre égaux mais bel et bien un rachat de Nissan par Honda puisque Honda est bien plus gros, sa valorisation boursière est 3 à 4 fois supérieure. Donc le calendrier va être extrêmement long, des accords qui devraient être signés en juin prochain 2025 et puis une assemblée générale et une cotation du nouvel ensemble à la bourse de Tokyo, en tout cas entre le printemps et l'été 2026. Donc ça va être 18 mois de négociations. Sur le papier, donc une fusion, on va dire, séduisante, mais la réalité, c'est que Nissan ne va pas bien depuis maintenant de nombreuses années. Hein. Nissan a subi 2 années de pertes en 2021, 2022, un redressement timide en 2023, et puis le ralentissement du marché automobile dans le monde, et surtout, Nissan souffre en Chine, a précipité en tout cas ses résultats à la baisse, et donc l'a poussé à se jeter dans les bras de Honda, et donc ça sera bel et bien un rachat de Nissan par Honda. Honda va choisir le président, le directeur général et la majorité des membres du comité exécutif du futur ensemble. Donc autrement dit, ce ne sera pas un mariage très équilibré.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, question subsidiaire, Renault dans tout ça, parce que Renault est toujours actionnaire de Nissan aujourd'hui, Mathieu.
Oui, c'est important. Alors, Renault a fait un communiqué aujourd'hui, c'est en tout cas sobre pour dire qu'il serait attentif à privilégier ses intérêts. Le gouvernement français, qui lui-même est actionnaire de Renault, aux côtés de Nissan d'ailleurs, c'était également exprimé vendredi, pour dire qu'il regardait cette fusion attentivement. Renault a encore 35% du capital de Nissan. Il y a peu de chances, voire pas de chances que Renault bloque cette opération, sinon il l'aurait sûrement déjà dit. Mais effectivement, il aura beau jeu d'essayer de négocier au mieux ce qu'on appelle les parités de fusion, les équilibres financiers, notamment pour que Renault puisse continuer à vendre ses parts dans Nissan à un prix le plus élevé possible. Renault avec 43% de Nissan, il en a déjà vendu un petit peu moins de 10%. Et donc Renault aura tout lieu de continuer à se désengager du futur ensemble, bien qu'étant le troisième constructeur mondial.
Voilà, nous sommes donc partis pour des mois de discussion entre Honda et Nissan, mais il y a donc la création du numéro 3 mondial de l'automobile à la clé. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Et puisqu'on est dans le secteur auto, on a la confirmation depuis quelques heures, les dés sont jetés chez Volkswagen, il n'y aura pas de fermeture d'usine en Allemagne, mais des milliers de suppressions de postes malgré tout. Léa Rojot.
Près de 35 000 emplois seront supprimés en Allemagne d'ici 2030. Cela représente 29% du total de ses effectifs outre-Rhin. Pour rappel, le groupe souffre du ralentissement mondial des ventes de voitures et de la concurrence chinoise, mais il s'est engagé à ne fermer aucune usine en Allemagne. Le constructeur va réduire sa capacité de production sur plusieurs sites. 700 000 voitures de moins seront produites par an. Par exemple, à l'usine de Wolfsburg, la plus grande usine mondiale de Volkswagen, 2 lignes de production sur 4 ont été arrêtées. Alors, avec ces mesures, le constructeur espère dégager 4 milliards d'euros d'économies par an, avec un objectif de rentabilité de 6,5% à moyen terme. Après plusieurs semaines de pourparlers, des efforts de part et d'autre ont été faits. Les salariés ont renoncé par exemple à un certain nombre de primes et aux augmentations salariales. De son côté, le constructeur s'est engagé à maintenir la garantie de l'emploi jusqu'en 2030.
Et on en reparlera bien sûr avec nos experts de 18h30 à 19h de cette année absolument épouvantable pour le secteur auto en France. Donc je vous le disais, on attend la composition du gouvernement. On va la connaître dans 25 minutes à 18h30. C'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui va dévoiler cette liste sur le perron de l'Élysée. On a déjà des informations qui circulent. Xavier Bertrand a fait savoir qu'il ne serait pas ministre. D'après nos confrères de BFM TV, Elisabeth Borne et Manuel Valls, deux anciens premiers ministres, vont faire entrer dans le gouvernement. Et puis d'après nos confrères de BFM TV toujours, le ministre de la fonction publique sortant, Guillaume Kasbarian, ne sera pas reconduit à son poste, annonce donc de ce gouvernement. Dans quelques minutes, 18h30, en direct sur BFM Business. Un mot du budget qui est en suspens, vous le savez. On voulait s'attarder une minute sur l'une des conséquences de la suspension des travaux budgétaires. Vous savez qu'au 1er janvier, on ne pourra plus temporairement peut-être payer ses courses avec des tickets restaurants en grande surface. Néanmoins, les professionnels de la restauration ne sont pas dupes. Ils ont demandé à la répression des fraudes de surveiller tout ça parce qu'ils sont persuadés que les distributeurs ne vont pas jouer le jeu. Hélène Cornet.
9 syndicats de restaurateurs et de commerçants ont donc écrit à la répression des fraudes. Ils soupçonnent les grandes surfaces de vouloir continuer à accepter les paiements en titre restaurant sans attendre que la loi qui prolonge l'autorisation de le faire soit votée. Le texte qui a fait consensus au sein des parlementaires est inscrit à l'ordre du jour du 15 janvier au Sénat. Mais d'ici là, il va falloir se conformer aux règles antérieures, c'est-à-dire celles en vigueur avant octobre 2022, qui conviennent bien mieux aux restaurateurs profondément hostiles à la prolongation de la mesure mise en place à ce moment-là qui a entraîné un vrai manque à gagner. Selon eux, leur part de recettes en titre restaurant a en effet diminué ces deux dernières années, quand celle dépensée en grande surface serait passée de 22,4% fin 2022 à 30,1% mi-2024. Des chiffres modérés par une étude de la Commission nationale des titres restaurants. Cette dernière montre qu'en 2023, les tickets restaurants ont généré près de 9 milliards d'euros à destination de la restauration rapide et traditionnelle, et un tiers de cette somme pour les grandes surfaces.
Alexandra Paget, dans l'actualité des entreprises, on y revient, vous avez peut-être suivi ça, il y a une grosse fusion annoncée ce week-end dans la gestion d'actifs. BNP Paribas a annoncé le rachat d'AXA Investment Managers pour un peu plus de 5 milliards d'euros. Grosse fusion qui pourrait en appeler d'autres par rapport à ce qu'apparemment il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans le secteur. Caroline Morisseau.
Tous les acteurs sont dans les starting blocks. Des discussions sont en cours entre BPCE et Generali. Elles sont déjà bien avancées. Les deux groupes planchent sur la création d'une société qui serait détenue à 50-50. Les principaux points de gouvernance sont déjà réglés, à tel point qu'un accord pourrait être annoncé d'ici fin janvier. D'autres discussions encore ont eu lieu entre Amundi et Allianz Global Investors, les filiales de gestion d'actifs du Crédit Agricole et de l'assureur allemand. Mais cette fois, elles sont plus compliquées. Elles butent sur le contrôle de la future société. Allianz refusant de le perdre. Si les négociations sont pour l'instant au point mort, elles pourraient reprendre rapidement, tant les acteurs européens sont sous pression. Tous sont engagés dans une véritable course à la taille pour réduire leurs coûts et améliorer leur rentabilité. Une condition sine qua non pour rivaliser avec des géants américains comme BlackRock. La surenchère de réglementation en Europe et la nécessité d'investir massivement dans les nouvelles technologies font encore monter la pression.
Voilà, du mouvement à venir dans la gestion d'actifs. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Et puis voilà la meilleure des réponses à ceux qui pensaient qu'après le Covid, le cinéma était mort. Non, on devrait faire cette année le meilleur score de fréquentation depuis 13 ans dans les salles françaises. Et en plus, les films français devraient représenter 46% de ces entrées. C'était seulement 40% l'an dernier. Timothée Marozet.
L'année avait pourtant mal commencé. Avec la grève des scénaristes d'Hollywood, de nombreux films manquaient à l'affiche. Mais le 1er mai, jour de sortie d'Un petit truc en plus réalisé par Artus, les compteurs s'emballent. Éric Marty, directeur de Comscore, société d'analyse du box-office, s'en souvient. Et au début, il n'y croyait pas.
La première réaction dans ces cas-là, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dans la remontée des informations? Est-ce qu'on a bien toutes les infos, mais ce qu'on n'en a pas trop. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que non, on était face à un phénomène. On l'a donc, dès le 2 mai au matin, on savait qu'on avait affaire à un film qui allait être assez phénoménal.
Et la barre du million est atteinte en moins d'une semaine pour finir par dépasser les 10 millions à la mi-août. Le film a même été, selon Éric Marty, l'élément déclencheur d'une mécanique positive pour le reste des films français sur l'année.
La sortie de Un petit truc en plus, c'est vrai que ça a réveillé le marché, ça a réveillé le box-office. Bon, on savait qu'on aurait des gros films américains sur la deuxième partie de l'année, mais ça a certainement aussi donné le goût au public de revenir voir des films français.
Et cela s'est confirmé au box-office. 9,3 millions d'entrées pour Le Comte de Monte-Cristo, 4,7 millions pour L'Amour Ouf, la barre du million, tout juste atteinte aussi pour Enfant-Phare, sorti fin novembre. De quoi confirmer une nouvelle fois l'exception française au cinéma.
Le cinéma français toujours là et bien là. Timothée Marouzet avec nous sur BFM Business. 18h09, les marchés, je vous rappelle la clôture, quasiment à l'équilibre ce soir pour le CAC 40, moins 0,03% pour l'indice parisien à la clôture, 7272 points. On regarde Wall Street rapidement, le Dow Jones qui à la mi-séance est orienté légèrement à la hausse, on va le voir dans un instant. L'indice Nasdaq, lui, de son côté, voilà, le Dow Jones, non, qui est en baisse, moins 0,2%. Le Nasdaq, lui, qui progresse de 0,6%, 19 690 points. 18h10, le président du marché international de Rungis, Stéphane Layani, est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. C'était la personne à recevoir ce soir puisqu'il dirige le marché de Rungis, la Semaris en fait. Bonsoir Stéphane Layani.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous, vous êtes venu avec une superbe corbeille de fruits qui vient de Rungis, j'imagine. Beaucoup de questions à vous poser, on va parler du Mercosur, on va parler de la souveraineté agricole, on va parler alimentaire, on va parler de patriotisme économique parce que vous dites que c'est très important pour vous. Enfin d'abord parler de Noël, comment ça se passe? C'est le grand rush pour vous, là?
C'est la période.
Non-stop.
C'est la période où on travaille beaucoup, et où c'est très, très merveilleux, Rungis, parce que ça fourmille dans tous les coins. On a plus de 600 000 passages, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un mois. Et clairement, c'est l'effervescence. Voilà comment on peut dire. En fait, ça commence au moment des sapins. Et là, on est à la volaille, au foie gras, aux fruits de la mer. On est totalement dans un seul objectif, réussir Noël. Et on est en passe de le réussir.
Et juste rappelez-nous en chiffres, vous le dites à chaque fois, mais parce que comme ça permet à nos auditeurs et à nos spectateurs de recadrer. Rungis, c'est quoi vous,
Rungis,
c'est le plus grand marché
au monde. C'est le plus grand marché au monde. Je suis d'ailleurs le président de l'Union mondiale des marchés, donc je le sais.
CQFD.
Et on fait 12 milliards de chiffre d'affaires. On a 1200 entreprises, 13 000 salariés, et on vend grosso modo 1,8 million de tonnes de produits frais, exclusivement des produits bruts et des produits frais, pas de surgelés, pas d'aliments préparés.
Et on verra tout à l'heure, est-ce que vous vendez de la viande argentine ou brésilienne? Mais ça c'est la question d'après, la question qui fâche. Pour Noël, là, par rapport à, je sais pas, est-ce que c'est mieux que Noël 2023? 2024 sera un grand cru? Parce que là, c'est le retour des volailles. J'ai cru comprendre des fruits, évidemment, mais les retours des volailles.
Ça sera merveilleux, parce que vous pouvez vous faire plaisir avec des petits budgets, des petits prix. On a des baisses très importantes sur tous les produits, et surtout sur les produits festifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12% sur le foie gras, moins 13% sur le canard, moins 17% en deux ans sur les huîtres. On a vraiment de la chance. On a moins 13% sur les coquilles Saint-Jacques. Donc, cette année, c'est pas la peine de contourner, d'essayer de trouver le produit un peu original. Non.
Vous dites allez-y.
Ça va être la tradition.
Oui, mais attendez, encore une fois, ça c'est à Rungis, mais il faut que ça soit, que la baisse elle soit répercutée ensuite pour le consommateur.
C'est l'intérêt des détaillants. Nous on vend essentiellement aux détaillants, aux restaurateurs, au marché et peu à la grande distribution, mais en réalité le système est très simple, c'est l'offre et la demande à Rungis et ensuite une fois que le commerçant a payé, il applique son coefficient multiplicateur. Et donc la réalité, c'est que ces baisses-là seront répercutées normalement aux consommateurs et au grand public.
Ouais. En plus, ça, c'est le fait.
Alors, j'ai vu que dans la grande distribution, c'est aussi le cas.
Oui, la grande distribution, c'est aussi le cas. Oui, parce que c'est intéressant, c'est que vous êtes presque maintenant en compétition avec la grande distribution, parce que ce que vous vendez, vous ne le vendez pas à la grande distribution.
Non, on vend à tout le monde, mais on vend principalement aux détaillants, aux commerçants de ville et aux marchés, parce que c'est notre cœur de dispositif. On doit vendre 10% de notre chiffre d'affaires à la grande distribution, en tout et pour tout, et surtout chez des franchisés qui sont des indépendants et qui prennent la marque Carrefour, Auchan, Casino.
Ça représente quoi le Noël, enfin les fêtes, ça représente pour les grossistes chez vous, ça représente combien de chiffre d'affaires?
Ça représente exactement 10% du chiffre d'affaires de l'année, 10 à 12%.
Ben c'est normal, c'est un mois, donc c'est assez logique. Oui.
Non, c'est plus d'un mois, il y a 12 mois dans l'année. Donc c'est plus, et pour ceux qui font des produits festifs, c'est-à-dire à la volaille, aux produits de la mer, à la marée, au fromage, ça peut faire 3 mois, parce que évidemment les Français veulent sanctuariser Noël et veulent se faire plaisir.
Quel est le produit que vous vendez le plus?
Quel est le produit?
Vous avez une idée?
Moi, je pense que là, ça va être la poularde. La poularde de Bresse. Ouais. Les gens veulent avoir une volaille pour Noël. Et donc, on pense que le canard, qui a beaucoup baissé, va être un produit totalement d'exception. Mais on vend beaucoup de poularde.
Vous êtes, si on regarde, on raisonne un peu en termes de filière, hein, parce que ça nous amènera sur le sujet de la souveraineté agricole, Stéphane Layani. Vous représentez à peu près 100% des fromages qui sont vendus qui sont vendus en France, 95% du cochon, 95% des huîtres. C'est dire si vous avez un rôle clé. Est-ce que c'est difficile de se faire référencer à Rungis?
C'est très facile, parce que en fait, il suffit de vendre son produit à un grossiste. Donc, soit on est agriculteur, et là, il faut trouver un emplacement, et ça passe par la Semaris, et j'ai plus beaucoup d'emplacements disponibles. Donc ça, c'est pour les grosses coopératives. Soit vous passez par un négociant, ou un grossiste, ou un mandataire, et si votre production est de qualité, il va la vendre. Et donc, il va agréer les produits, et ensuite, il va la revendre.
Si on regarde, on peut dire que vous vous mettez en fait au bleu, blanc, rouge, en fait. Il y a un côté assez patriote dans votre démarche, Stéphane Layani. Vous avez créé le carré des producteurs. Est-ce qu'on peut savoir combien vous vendez de produits qui sont issus de l'Île-de-France?
De l'Île-de-France, on en vend pas mal, puisqu'on fait 50% des produits locaux. 50% des produits locaux, avec 13 000 tonnes par an. On a un carreau des producteurs, avec des agriculteurs qui viennent tous les matins de Seine-et-Marne, d'Essonne, du Val-d'Oise, et qui présentent leurs produits. Et on a les meilleurs produits d'Île-de-France. On a par exemple, je conseille, les pommes et les poires Vassou, qui sont exceptionnelles. Le cresson de Méréville. Il y a des cressonnières en Essonne. Et je terminerai aussi par les fleurs que vous voyez maintenant sur les plats, les fleurs de la maison Chevet. Ben, c'est produit en Île-de-France.
Oui. En même temps, vous défendez la souveraineté alimentaire, la souveraineté française. Mais là, par exemple, vous êtes venu avec des fruits, une corbeille de fruits magnifique. Les litchis, ils viennent pas de...
Ils viennent de La Réunion, madame.
Oui, ils viennent de La Réunion.
La Réunion, c'est la France.
Oui, bien sûr, complètement.
Mayotte, c'est la France.
Oui, d'accord.
La Réunion, c'est la France. Et donc, évidemment, on a de la banane française, on a des ananas Victoria de La Réunion, et...
Que venant de La Réunion, que provenant
non,
de La Réunion?
Ah bah non, bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non. Et il faut quand même offrir des fruits en contre-saison, c'est normal. Et donc, évidemment, les fruits, nous ne produisons que très peu de fruits en France en hiver, on les importe.
Est-ce que vous êtes favorable au Mercosur ou pas, Stéphane Layani, en tant que patron de Rungis?
Franchement...
Est-ce que vous vendez, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous vendez de la viande argentine? Est-ce que vous vendez... est-ce qu'on trouve à Rungis? Est-ce que la viande du poulet brésilien?
Je voudrais pas ennuyer vos téléspectateurs, mais je pense que déjà, techniquement, c'est un très mauvais accord qui n'est pas équilibré. Et donc, On ne peut pas accepter l'agriculture que nous ne voulons pas pour nos enfants, pour nos familles. Deuxièmement, j'ai posé la question, j'ai demandé à mes équipes, est-ce qu'on vend de la viande du Mercosur ? Elle m'a dit non, c'est 0%. Alors, peut-être que vous allez trouver une pièce de bœuf argentine, mais honnêtement, par rapport au volume qui est fait, hein, c'est 90 000 tonnes par an, la viande bovine, par exemple, eh bien, il n'y a pas de viande argentine, il n'y a pas de viande du Mercosur. Et enfin, je pense que tout ça est possible. Moi, je suis assez ouvert au commerce international, à condition que les règles soient les mêmes pour les agriculteurs.
Oui, mais en même temps, il y en a d'autres qui disent que c'est bon pour l'agriculture française, parce que l'agriculture française, elle est exportatrice. Hein.
Elle est exportatrice.
Voilà, elle a perdu beaucoup de parts de marché au niveau mondial. Mais
Bien sûr, mais il faut d'abord être sûr d'exporter vers ces pays-là. Ouais. Et donc, aujourd'hui, notre problème n'est pas le problème de l'exportation, notre problème est le problème de la production. Est-ce qu'on produit assez pour exporter ? Il faut déjà avoir une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire ne pas dépendre. On a vu pendant la crise du Covid que nous étions en situation de dépendre sur un certain nombre de productions. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me bats pour la souveraineté alimentaire, que je vais créer le pavillon de la souveraineté alimentaire. Ce matin même, je faisais une réunion dans mon bureau pour dire où sera le pavillon de la souveraineté alimentaire.
Mais ça veut dire quoi ? Il y aura quoi dedans ?
Ah ben, il y aura les meilleurs produits français, les meilleurs AOC, les meilleurs IGP, parce que il n'est pas normal que nous n'ayons pas cette vitrine de l'agroalimentaire française à Paris. Et donc Rungis se doit d'être la figure de proue de cette souveraineté alimentaire.
Mais en même temps, vous avez 61% des produits qui circulent sur le marché de Rungis qui sont d'origine française. C'est déjà beaucoup, mais il y a 40% donc qui ne sont pas d'origine française.
Parce qu'on est, un pays du nord de la France. On est une région du nord de la France, et que les franciliens, s'ils devaient manger que des fruits et légumes d'Île-de-France en hiver, ils mangeraient beaucoup de racines.
Oui, c'est ça. Donc, et est-ce que ça évolue, ce rapport ? Donc 40% en exportation, en importation, pardon, 60% produits de France. Est-ce qu'il évolue par rapport à 2023, 2022 ?
Il évolue, si vous voulez. Moi, je suis comme le directeur d'un aéroport. Je ne choisis pas les destinations de mes passagers. Donc, il évolue en fonction des envies des consommateurs. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que les gens étaient de plus en plus citoyens. Ils achètent de moins en moins des cerises en hiver, ils achètent de moins en moins des produits qui ont fait le tour de la planète. Et donc ça, c'est plutôt positif. Après, il peut évoluer de façon négative parce que il y a des agriculteurs qui se retirent ou des contraintes agricoles qui font que, par exemple, des arboriculteurs ne font plus de cerises parce que c'est trop compliqué aujourd'hui de lutter contre la mouche Suzuki.
La dernière fois que je vous avais interviewé, Stéphane Lagnini, je vous avais parlé du train des primeurs. Je vais vous reposer la question parce que vous m'avez dit, mais si, il est en train de repartir. Donc il est reparti, puis là il s'arrête de nouveau. Donc c'est incroyable parce qu'on est en train de nous expliquer qu'il faut, dans le cadre de la transition écologique, il faut absolument prendre le train.
Et je suis très favorable au train des primeurs. J'ai même un projet de gare multimodale à Rungis pour moderniser tout ça. Tout dépend en réalité des tractionnaires, c'est-à-dire de la SNCF et des boîtes concurrentes, pour savoir si le fret est rentable pour elle ou non.
Ben non,
et donc malheureusement, la Commission européenne vient de casser fret SNCF. C'est un fait. Elle a reçu des aides d'État pendant des années, parce que ça n'est pas rentable sans aide d'État. Et il se trouve que... Mais là, je suis observateur et client.
Donc c'est terminé le train des primaires.
Je n'ai pas dit cela.
Et vous dites quoi, là ?
On est en train de préparer ce projet de gare multimodale et je pense que le fret, on vient de déposer en tant que président de l'Union mondiale un projet pour être capable d'avoir du fret dans toute l'Europe par voie ferrée, projet Omicron, on y croit.
quand je vous écoute, c'est vrai qu'on se dit, tout va bien, parce que tout va bien pour Rungis. Et en même temps, vous entendez comme moi, et même un peu plus près, la colère agricole. Comment faire pour que, vous voyez, ça se concilie?
Moi, je comprends bien la colère agricole. Je me mets à la place des agriculteurs. Ils font un travail qui est assez difficile. Ils n'ont pas toujours les débouchés qu'ils voudraient. Ils ont des charges qui sont importantes. Ils sortent avec des prix qui sont pas toujours aussi compétitifs qu'ils le voudraient. Ils ont des contraintes aujourd'hui écologiques. Et puis, il y a des équilibres géostratégiques qui changent. Et donc, je comprends ce malaise agricole qui est devenu très important l'année dernière. Cette année, bon, il y a les élections aux chambres d'agriculture. Oui. Mais clairement, moi, je comprends cela. Et donc, nous, on leur dit, Rungis, c'est la solution, pas le problème.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. Stéphane Layani, le président donc, de Rungis, de la Semaris, qui est donc en plein rush pour ces fêtes de Noël et fêtes de la Saint-Sylvestre. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul, et notamment avec les annonces du nouveau gouvernement. A priori, ça sera en direct de l'Élysée avec Alexis Kohler.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h30, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, pour refaire l'actu jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Eric Lewin est revenu avec nous. Rebonsoir Eric.
Rebonsoir,
président
bonjour,
de la finance.
Bonjour, depuis quelques temps.
Et Leonidas.
Trop longtemps, bonjour.
Qui effectivement nous rejoint. Bonsoir Leonidas.
Bonsoir.
Géropoulos, PDG de Médiation et Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Messieurs, on attend. C'était prévu pour 18h30, il est 18h31, ça n'est pas tombé, mais ça va arriver.
Ça va arriver.
Alexis Kohler, ouais, qui va annoncer d'ici quelques secondes, a priori, la composition du gouvernement. Alors, on a déjà des infos, messieurs. On sait qu'Elisabeth Borne, ancienne première ministre, va rentrer au gouvernement. Quel poste, on verra dans un instant. On sait que Manuel Valls, ancien premier ministre, va rentrer au gouvernement. Et puis, d'après nos confrères de BFM TV, eh bien, c'est Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts et consignations en poste depuis 2017, qui va devenir ministre de l'économie. Effectivement, ça fait partie des noms qui circulaient. Alors, je rappelle son parcours, mais ça va être officialisé, je pense, d'ici quelques instants. Dirigeant de BNP Paribas Cardi de 2004 à 2013. Directeur de général de Generali France de 2013 à 2017 et donc en poste à la Caisse des dépôts depuis 2017.
Et vous avez oublié que c'est l'un des héritiers de Devanlay, puisque son grand-père, Pierre Lévy, était l'un de ceux qui avait repris Devanlay. C'était il y a bien longtemps. Donc, il a quand même la fibre entrepreneuriale.
Il a la fibre entrepreneuriale.
Et je crois que pendant certaines années, il avait d'ailleurs géré la fondation familiale, où il y avait beaucoup d'art. Donc, espérons qu'il y ait, je dis ça aussi pour Léonidas, espérons qu'il y ait quand même cette vraie fibre entrepreneuriale et qu'on n'ait pas des hausses d'impôts
c'est un homme qui connaît l'entreprise. Voilà,
déjà, non, mais tout simplement connaît l'entreprise, mais c'est également...
Non, mais je veux dire, ça n'a pas été le cas de tous les ministres de l'économie et des finances,
vous avez raison.
C'est pour ça que je...
Non, mais vous avez raison de le souligner, et c'est aussi un des acteurs majeurs du financement de l'économie, de la réindustrialisation, et vous savez combien c'est pour nous, enfin, pour les entrepreneurs, globalement, ce cap sur la réindustrialisation qui est potentiellement un cap fédérateur, un cap qui dépasse les clivages, gauche-droite confondus. Sans la réindustrialisation, il n'y a pas de possibilité durablement de rembourser nos dettes.
Oui.
Il
n'y
a pas potentiellement, durablement, la capacité de retrouver un équilibre, et encore moins de faire vivre notre modèle social. Ouais. Donc ce cap de réindustrialisation, ça peut être un cap fédérateur, ça peut être un cap transpartisan, et finalement un des éléments qui permettrait à ce gouvernement de retrouver une direction malgré toutes les forces qui tirent à U et à Dia.
Information de nos confrères de BFM TV, donc c'est Éric Lombard, l'actuel patron de la Caisse des dépôts et consignations, donc au poste depuis 2017, qui devrait être chargé du portefeuille de l'économie. Est-ce qu'il aura économie et finance? Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on va avoir.
Il faut rassurer, parce que je vous rappelle quand même qu'on va être le plus gros emprunteur de la zone euro l'an prochain, avec 340 milliards en tout.
Oui.
On est devant
l'Italie.
300 plus 40 de rachat d'obligations.
Voilà,
ça fait 340.
C'est ça,
on sera le plus gros sur 1271 milliards. Et donc, on voit que les prévisions indiquent que on va avoir un déficit budgétaire de 115% l'an prochain, et qu'aucun économiste ne croit qu'on va réussir à réduire le déficit budgétaire vers les 5%. 6%. Ouais. Tout le monde pense qu'on sera sans doute au-dessus des 6%, donc il aura du pain sur la planche si c'est lui, parce qu'il faut quand même gérer cette situation budgétaire qui de plus en plus devient inconfortable avec un taux à 10 ans qui est passé au-dessus des 3,10 puisqu'on est à 3,12.
On est à 3,12 ce soir.
D'accord, mais je pense quand même que vous serez d'accord avec moi sur la nécessité, de toute manière, au-delà de savoir où sera la stabilisation du montant du déficit, nous avons besoin d'un cap, nous avons besoin d'un budget et nous avons besoin de sortir du désordre. Et à la limite, j'allais presque dire que sortir du désordre, c'est presque plus important que de savoir à quel endroit on va sortir du désordre. Qu'on soit à 5,5, à 5 ou à 5,6.
Ce que vous appelez sortir du désordre, c'est déjà avoir un budget, quel que soit le budget.
C'est d'avoir un budget, d'avoir une stabilité.
De tout le gouvernement.
Et surtout d'avoir une économie de l'offre. Et surtout continuer l'économie de l'offre. Et ne pas aller vers des hausses d'impôts. Ce serait suicidaire d'aller vers des hausses d'impôts.
Ça, la composition du gouvernement vous donnera peut-être un début d'esquisse de réponse sur le fait de savoir dans quelle mesure on continue la politique de l'offre.
Non, mais je suis d'accord. La seule chose, c'est que vous en serez certainement d'accord avec moi. On ne peut plus avoir cette espèce de menace permanente. J'ai lu l'autre jour l'interview d'Olivier Faure où, en une interview, il a dit 6 fois censure. À 6 reprises, il a dit si telle ou telle ligne rouge est franchie, je censurerai. On ne peut plus avoir un environnement gouvernemental et institutionnel dans lequel tous les 4 matins, il y a une ligne rouge et une menace sur une censure. On a besoin d'un budget, et j'allais presque dire qu'on a un mauvais budget,
Justement, la question, est-ce que pour vous remettre de l'ordre, comme vous disiez, est-ce que c'est un budget, quelle que soit la nature du budget, même si par rapport à ce qu'on nous annonçait, promettait il y a quelques semaines, c'est un tuyau percé.
C'est qu'on avait un cap qui était un cap à 60 milliards de réduction des dépenses.
Ça, c'est terminé.
Si on a 40 milliards et que finalement...
Oui, mais 40 milliards répartis comment?
Je suis totalement d'accord avec vous. Je sais quel serait mon budget idéal. Mais dans la mesure où nous savons que nous avons un millefeuille, ou plus exactement un puzzle institutionnel dans l'Assemblée nationale, probablement le budget de ses rêves. Mais au moins qu'on en ait un, que ce cap soit franchi, que le gouvernement ne tombe pas, qu'on ait une stabilité et qu'on ait une feuille de route. Vous savez, les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, le lot des entrepreneurs tous les matins.
Il faut un cap. Moi, je voudrais aller plus loin que Léonidas. Il faut un cap. Il faut réduire fortement les dépenses et surtout, il ne faut pas augmenter les impôts. Il y en a marre que les entreprises... Et Léonidas est également entrepreneur.
Il y en a
marre que les entreprises payent. Le budget Barnier n'était pas bon parce qu'il y avait une forte augmentation de l'impôt sur les entreprises soi-disant les plus riches de France. Il y avait la CVAE, vous savez, c'est le fameux impôt qui est complètement unique, parce que les impôts de production, c'est 3,5% en France, alors qu'on a une moyenne de 1,8% en Europe et 0,7% en Allemagne. Donc Michel Barnier voulait arrêter la baisse de la CVAE. Excusez-moi si je suis trop technique.
On parle tous les soirs.
Donc il faut arrêter avec le matraquage fiscal. On peut réduire les dépenses.
Oui, non, mais ça, vous voyez bien que c'est pas attendu. Même les sénateurs LR, les sénateurs républicains ont voté une augmentation de la flat tax.
Mais bien sûr.
Et on votait le rétablissement de quelque chose qui pourrait s'être assimilé à un retour de l'ISF.
Ce que je veux vous dire, c'est que le mieux, c'est l'ennemi du bien à un moment donné. On a la même volonté. Moi, je plaide véritablement pour que la politique de l'offre aille jusqu'à la réindustrialisation massive de notre pays. Je pense que c'est une nécessité. En plus, je pense que c'est une nécessité qui peut faire consensus dans notre pays. En revanche, on a une situation tellement dégradée que probablement il y aura des hauts impôts et probablement il y en aura là où on aura des dommages.
Ça veut dire l'Alidas, toi qui es chef d'entreprise, la dégradation de la compétitivité des entreprises. On sait très bien que l'industrie, c'est simplement 10,5% du PIB en France, alors qu'on est à 13-14% dans les autres pays. Donc on va continuer à augmenter les impôts pour colmater les brèches. On va arriver à quoi? Une désindustrialisation qui continue, une économie française qui aura à peine 0% de croissance et tout le monde sera content. Je pense que c'est le moment de taper fort. Il faudrait qu'on ait, je suis pas sûr que Bérou soit l'homme de la situation, mais il faudrait quelqu'un de fort pour dire faut arrêter, on peut réduire le déficit budgétaire. Je dis pas que faire comme Miles en Argentine, mais il y a quand même des mesures entre augmenter les impôts et ne pas réduire les dépenses.
Moi je suis d'accord sur le diagnostic. Si on peut avoir ce cap-là, il me va très très bien et je plaide pour ce cap, bien entendu. Je dis simplement qu'à un moment donné, le fait de ne pas avoir de budget, de ne plus avoir de gouvernement et d'avoir tous les 4 matins une menace à la censure, ça finit par nuire à tel point à notre capacité à se projeter vers l'avenir. Vous le savez, tu le sais comme moi, les impôts sont bloqués, les investissements sont bloqués, les réindustrialisations sont bloquées, notre pays est bloqué. Il faut sortir de cette impasse et je pense que la sortie de l'impasse ne sera pas absolument idyllique et ne sera pas forcément conforme
au budget de notre pays. Qu'il était à 43 la dernière fois. Il y a un problème psychologique chez les investisseurs. Moi, je vois beaucoup de patrons de PME cotés, ils n'investissent plus. On gèle tout l'outil de production parce qu'on n'a pas envie d'investir. La consommation aussi, on voit que le taux d'épargne des ménages n'arrête pas de monter. Je crois qu'on est à 18%. Donc on a une demande intérieure qui est gelée. Reste les exportations. Et avec Trump, les exportations, qu'est-ce qu'on fera? Ça va être compliqué avec les droits de douane. Donc c'est vrai qu'il faut agir en urgence parce que sinon, j'ai l'impression que l'économie française va s'ankyloser, se scléroser.
Ça sera pas idyllique pour les entrepreneurs d'une manière générale parce que on l'a expliqué, on le redit et on verra un petit peu ce que nous donne la composition du gouvernement qu'on attend toujours.
On l'attend toujours, 18h30.
Bon. Au moins, nous, on est à l'heure par rapport à eux.
Alors, nous, on est à l'heure. On a fait ensemble exprès d'être à l'heure. Donc, on s'est débrouillé. Mais il va falloir, pour éviter le risque de censure, à défaut de faire entrer véritablement les socialistes au gouvernement, on verra. Parce qu'on nous donne les noms de Manuel Valls.
Enfin, Manuel Valls n'est plus socialiste, quand même, mon cher Guillaume.
Non, alors, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit.
Enfin, bon.
Il y a le nom.
Social-démocrate Bontain, disons.
Voilà. Il y a François Rebsamen, pressenti pour entrer au gouvernement.
Qui avait soutenu Macron en 2017.
Oui.
Non, mais c'est pas des socialistes, si vous voulez, c'est de la social-démocratie.
Non, enfin, je sais pas. En tous les cas, là,
il va falloir être certain
qu'il y ait des savants capables de distinguer entre toutes les nuances de rose dans le socialisme.
Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir donner des gages aux socialistes qui, s'ils n'entrent pas véritablement, si vous n'avez pas véritablement de prise de guerre dans ce gouvernement, vont demander des gages pour éviter la censure. Et là, vous me voyez venir, évidemment. On sait déjà très bien ce sur quoi ils vont vouloir pousser les curseurs et notamment la réforme des retraites.
La réforme des retraites. Voilà. Non, mais je pense qu'on sera d'accord sur un point, c'est que réouvrir le chantier de la réforme des retraites c'est quelque chose qui est tellement nuisible à notre crédibilité internationale. Le seul et unique poste, la seule réforme sur laquelle on ait réussi à faire des économies véritablement. Là aussi, il me semble qu'il faudrait que ça soit des sujets sur lesquels il y ait un consensus, être capable d'expliquer au moins la situation dans laquelle nous sommes. On n'arrive même pas à avoir le diagnostic sur le fait qu'il y a une réalité de subvention de 30 à 40 milliards par l'État pour être capable de combler aujourd'hui l'équation de nos retraites tous les ans. Ça, au moins, nous pourrions être d'accord sur ce point. Même sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Donc, on peut pas réouvrir ce chantier-là. D'ailleurs, globalement, ça fait partie des chantiers probablement l'immigration.
Même Bayrou disait, on va renégocier. Même Bayrou, quelques jours, dit on ne suspend pas. Mais on continue de renouveler
son pareil. Bon, qu'il ouvre un débat.
C'est d'un flou artistique, je suis d'accord avec vous. Mais aux yeux des investisseurs internationaux qui, eux, ne regardent, ne jugent que à travers cette réforme des retraites.
C'est dramatique. D'ailleurs. À un moment, je peux vous dire que si on abroge la réforme de retraite, le 10 ans français que vous voyez à 3,12 va à 3,40, 3,50.
On l'abrogera pas, Eric.
Mais à la moindre mauvaise nouvelle sur les retraites, les investisseurs internationaux sont polarisés sur cette réforme des retraites. Donc il faudrait pas qu'on la change, qu'on se rende compte que finalement on va pas
c'est
dans le bon sens.
C'est le seul élément de l'équation budgétaire française qui est à peu près une nouvelle
réforme. Qui tient la route. Là, on va dans le bon sens. Même si, à mon avis, on pourrait glisser jusqu'à 67 ans, mais je pense qu'avec mais l'espérance de vie, on mourrait.
En
1974, 5 ans après son départ à la retraite. On meurt 25 ans après. Il y a peut-être un juste milieu. On peut peut-être dire aux gens qui ne sont pas dans une forte pénibilité de travailler un petit peu plus. Enfin, c'est pas scandaleux de dire quelque chose comme ça ou c'est pas correct.
Je trouve ça d'autant moins scandaleux que tous les pays qui nous entourent ont accepté cette réforme sans cette espèce de crise nationale que nous semblons vivre depuis plusieurs années. C'est quand même fait partie des sujets sur lesquels, effectivement, il pourrait y avoir un minimum de consensus.
On disait 3,12% pour le taux d'emprunt à 10 ans français ce soir. On emprunte toujours plus cher que certains pays de la zone euro, Espagne, Italie notamment.
Plus 12 par rapport à l'Espagne qui est à 3%. Ouais. 82 points de base spread entre l'Allemagne et la France.
Et mais Portugal qui est un petit peu en dessous.
Là, le 3,12, c'est vrai que les taux français montent en ce moment.
Mais tout le monde monte.
Mais c'est parce que tous les taux européens montent et c'est parce que aussi les taux américains ont monté à 4,54 parce que la semaine dernière, la Fed a dit, nous on va baisser les taux simplement de 50 points de base l'an prochain et donc les investisseurs ont pris peur parce qu'ils attendaient 100 points de base. Et donc finalement, ils se sont dit il y aura peut-être plus d'inflation due à Trump. Donc les taux longs ont monté aux États-Unis et donc il y a eu des répercussions sur les taux longs européens. Oui. Mais encore une fois, il n'y a pas d'attaque pour l'instant sur la dette française puisque le spread est toujours à 82 points de base.
Non, il n'y a pas d'attaque,
Mais il pourrait.
Oui, non, mais voilà, c'est ça la question. Genre, 18h43, on attend toujours la composition du gouvernement.
On l'a souvent ensemble sur BFM. Attendez, on est bien discuté.
Oui, on est très bien discuté. Bah, je vais discuter d'un point un petit peu sérieux, un petit peu chaud. C'est que pour l'instant, vous dites les marchés restent favorables, les marchés restent zen. Qu'est-ce qui pourrait être un game changer ? Il y a deux ans, Grande-Bretagne.
Retraite.
Non, mais... Il y a deux ans, Grande-Bretagne, on l'a pas vu venir. Il y a deux ans, en Grande-Bretagne, on l'a pas vu venir, la colère des marchés.
C'est non, mais. Vrai. Alors. Pardon, qu'est-ce qui pourrait être désastreux pour nous ? Les retraites, je suis d'accord. Le deuxième point, mais je pense qu'on peut en être d'accord.
Le signe noir, voilà, le signe noir.
Il y a à nouveau une chute du gouvernement sur un budget. C'est la raison pour laquelle je finis par me dire, je préfère encore un mauvais budget que de retomber sur le budget. Qu'on soit pas capable d'avoir un budget d'ici le 14 février, et je pense que c'est un véritable défi.
On verra. Alexis Kohler en direct, la composition du gouvernement. Parti.
Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministres auprès des ministres de plein exercice. Auprès du Premier ministre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame Sophie Prima, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi. Monsieur Yannick Neuder, ministre chargée de la Santé et de l'Accès aux Soins. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'Autonomie et du Handicap. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Économie sociale et solidaire. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme. Auprès du ministre des Armées, Madame Patricia Mirales, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Valérie Létard, ministre chargée du logement. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la Ruralité. Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur Thani Mohamed Swalihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le 3 janvier à 10h. Je vous remercie.
Voilà Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui vient de dévoiler la liste du gouvernement. Bah, on va s'en tenir au ministère économique, à vocation économique. Bah, confirmation, l'information de nos confrères de BFM TV, Éric Lombard, donc président de la Caisse des dépôts et consignations depuis 2017, qui devient donc ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Qu'est-ce qu'on note d'autre? Le retour des gros poids lourds. Elisabeth Borne qui sera donc à l'éducation nationale. Manuel Valls, ancien premier ministre au département d'outre-mer. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bruno Retailleau à l'intérieur. Catherine Vautrin qui reste au travail. Le cornu aux armées, Rachida Dati à la culture. Du côté de l'économie, quand on disait Éric Lombard qui sera ministre de l'économie et des finances. Le retour d'Amélie de Montchalin au compte public. Macroniste de la première heure.
Effectivement. Ouais. Mais je vois aussi une certaine forme de stabilité dans les ministères de l'industrie.
Marc Ferracci qui reste à l'industrie.
Valérie Létard au logement.
Clara
Chapaz au numérique.
Tout à fait. Et Laurent Saint-Martin qui
est. Après, c'est pas très resserré quand même tout ça. Non, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a beaucoup
de monde.
Laurent Saint-Martin qui arrive au commerce extérieur.
Qui était avant Business France. Donc il était déjà présent sur le commerce extérieur.
Oui.
Cela dit, pardonnez-moi de vous dire ça comme
je vous en prie.
Du cri du cœur, mais je trouve invraisemblable que le Conseil des ministres qui réunisse l'ensemble du gouvernement se tienne le 3 janvier.
C'est Noël, Leonidas.
Non, mais vous plaisantez.
Les vacances parlementaires, c'est jusqu'à quand? Je crois que c'est jusqu'au 14 janvier. C'est ça la France, mon cher Leonidas.
Mais non.
Mais si, mais c'est comme ça.
Et vous croyez qu'on va pas travailler en coulisses, en cabinet d'ici là?
Je dis pas que les ministres en exercice vont pas reprendre les portefeuilles et les dossiers, mais enfin, on n'a pas un pays qui s'arrête après une crise gouvernementale comme celle que l'on a eue, une crise budgétaire comme celle que l'on est en train de vivre, une instabilité. Enfin, je trouve ça invraisemblable. Excusez-moi, cette espèce de sacralisation des vacances. Pardonnez-moi. C'est vraiment insupportable parce que l'un des éléments absolument fondamentaux pour rétablir la situation.
Ne croyez pas que tout le monde va se tourner les pouces pendant 10 jours.
Mais pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir que l'on a un gouvernement qui est porteur de valeurs. On ne sait pas montrer à un pays entier qu'il doit faire des économies si on fait pas déjà des économies sur le train de vie du pays. Et on ne sait pas montrer que la priorité est au travail si on se met pas instantanément au travail quand il y a des urgences. Et ça fait partie des signes extérieurs de se dire, on se retrouve chez Manche et on y va. Avoir la nomination d'un gouvernement ce soir et se dire rendez-vous dans 10 jours pour le premier conseil des ministres, je trouve ça effarant.
Je vois des LR, effectivement, il y a des LR qui font leur entrée au gouvernement.
Ce qui est quand même bien avec Éric Lombard, pour parler de lui, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien les marchés financiers, il était à la Caisse des dépôts, alors c'est vrai qu'il a fait un passage chez Michel Sapin en 94, il était conseiller technique, je crois. Il connaît, donc on peut penser peut-être que pour les entreprises, il va comprendre quand même, c'est ce qu'on disait avant la nomination, que c'est un peu gelé en termes d'investissement, que c'est compliqué sur la consommation, que les entreprises aient un peu d'angoisse.
On sait que ses prédécesseurs n'avaient pas conscience de ça. Antoine Armand, Bruno Le Maire.
Ils n'avaient peut-être pas le même vécu que lui. Et donc, je pense que lui, en étant à la Caisse des dépôts,
il a quand même des retours quotidiens
sur ce qui se passe dans l'économie française. Donc, oui, ça
s'adresse quel signal, Éric Lombard, s'adresse quel signal pour vous? On parle au marché, là, clairement.
Pro-entreprise.
Totalement pro-entreprise.
Pro-entreprise, pro-business.
Saint-Martin, Ferracci.
De Montchalin.
Marcheuse de la première heure, évidemment, comme chacun sait, évidemment.
Mais objectivement, c'est vrai que je trouve.
On envoie le message ce soir que la politique de l'offre n'appartient pas au passé. Elle va faire composer
avec Barnier. C'est vrai avec Barnier qui, quand même, voulait lui rompre avec la politique de l'offre. Donc ça veut dire que la politique de l'offre va continuer. C'est ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou, je crois que c'était dans une interview ce matin ou hier, en disant qu'il faut continuer cette politique de l'offre. Donc Éric Lombard, ça va dans le bon sens parce qu'il comprend des entreprises, enfin.
Je suis d'accord avec vous, sauf que vous n'avez pas, je vois dans ce gouvernement, la grosse prise de gauche qui aurait permis déjà de s'assurer peut-être une non-censure. C'est-à-dire qu'encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, il faut donner des gages maintenant à la gauche pour éviter la censure. C'est bien beau d'avoir des personnes pro-entreprise.
François Rebsamen, Medel est là. Il y a effectivement Manuel Valls, dont j'entends qu'effectivement il a pris ses distances depuis longtemps avec, le Parti Socialiste.
Alors s'il y a Juliette Méadel,
Oui,
enfin, qui connaît, je ne veux pas être méchant, mais peu de gens quand même connaissent Juliette Méadel. Enfin, c'est pas un énorme poids lourd.
Je vous repose sur le papier, il y a de quoi faire une politique de l'offre, une politique pro-business. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'on va devoir lâcher à gauche pour éviter la censure? Parce que c'est la question qu'on se pose ce soir en voyant cette composition.
Peut-être un peu de flat tax. Ça ne m'étonnerait pas malheureusement qu'on ait un peu de flat tax qui remonte à 32% et que peut-être qu'on ait ce genre de choses. Ou peut-être, peut-être l'impôt sur le...
Elle était partie pour remonter à 33% dans l'ancienne version du budget, si je ne me trompe pas, la flat tax.
Peut-être l'IFI, il y aurait peut-être sur l'IFI, peut-être. Peut-être qu'on ferait, qu'on changerait. Enfin, il ne faudrait pas aller dans ce sens-là, mais c'est les seuls gages qu'on pourrait donner à la gauche.
Est-ce que vous faites, de toute façon, vous considérez que même si on va reprendre alors les débats budgétaires, la discussion budgétaire à l'État où elle a été laissée, c'est bien. Va falloir de toute façon demander une contribution aux grandes entreprises et aux ménages les plus aisés. Est-ce que vous dites ça, c'est quelque chose auquel on ne coupera pas de toute façon, Léonidas?
C'est la situation...
Même si c'est provisoire.
Non, mais la situation est tellement dégradée que nous le savons tous, le fait de rétablir les comptes en se projetant sur une possible croissance grâce à une politique de l'offre, c'est quelque chose qui prend du temps. La seule chose qui permet de rétablir les comptes dans un laps de temps court, c'est malheureusement uniquement des collectes d'impôts supplémentaires. Après, il y a des mesures d'économie qui se projettent et pour lesquelles il faut avoir une trajectoire. Mais si on veut avoir des résultats sur les 6 mois qui permettent de passer de 6,5 de prévision de déficit à quelque chose qui se rapproche de 5 quelque part entre les deux, oui, malheureusement, c'est uniquement des impôts qui y arrivent. Donc je pense qu'on est tous préparés à ce qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Il va y avoir de mauvaises nouvelles. Maintenant, plus on les limitera et plus ça sera équilibré avec des économies, et mieux ça sera. Maintenant, encore une fois, les économies, c'est partout que ça se fait des économies. Et on a vu avec la région Pays de la Loire que lorsque une présidente de région, Christine Morancet prend la décision de mettre le cap sur 100 millions d'économies sur son budget alors qu'on lui en demandait que 40, eh bien il y a capacité de le faire. Ça devrait être une grande cause nationale d'aller chercher des économies. Ça donnerait effectivement une coloration qui équilibrerait les impôts que l'on va lever.
Ça va être dur d'aller chercher les économies, d'éviter la censure.
Sur le budget, parce qu'encore une fois, on a 340 milliards à lever l'an prochain.
Bérou veut avoir bouclé l'affaire le 14 février.
Pour l'instant, ça se passe bien parce que les investisseurs, quand vous avez 2 milliards d'émis, ils en achètent pour 6 milliards. Mais attention quand même, je pense que là, si on n'avait pas de budget, s'il y avait une nouvelle motion de censure, s'il y avait Bérou qui était renversé, je pense qu'on pourrait avoir de sérieux problèmes sur les taux d'intérêt sur la dette française. Je vous rappelle quand même que la charge d'intérêt de la dette, ça sera autour de 60 milliards l'an prochain, sans doute 70 milliards en 2026. Donc il y a quand même urgence à réformer.
Tout ça pour dire que
à trouver des économies très vite.
Les travaux parlementaires reprennent le 14 janvier. Ça veut dire que d'ici là, vous allez avoir une tonne de ballons d'essai qui vont circuler et fuiter dans la presse pour voir un petit peu ce qui se passe. Non, ça veut dire que potentiellement, dès le 14 janvier, la gauche dépose une motion de censure. Je crois que c'est d'ailleurs déjà arrivé.
Vous savez que la déclaration de politique générale est prévue le 14.
Dès le mercredi 16, on débattra d'une motion de censure de la gauche. Donc François Bayrou peut être renversé dès le 16 janvier prochain, finalement. C'est ça que ça veut dire.
C'est ce que disait Mélenchon dans une interview ça, maintenant.
Le fait est que... si la gauche le dépose, bien entendu, ça ne peut passer que si l'extrême droite le vote également. Et la question de savoir si ce qui s'est passé en novembre peut se repasser tous les mois, je pense que désormais tous les...
C'est plus dur à assumer ensuite quand vous êtes dans les oppositions. Voilà.
Avouez que ça passe une fois, c'est pas tout à fait forcément tous les matins qu'on peut le faire.
Mais c'est vrai, le RN, a priori, a eu la tête de Xavier Bertrand qui était pressenti pour être ministre. Il ne voulait absolument pas,
c'est un test important.
C'était un casus belli, donc on peut se dire si le RN ne va pas donner des gages à Bayrou en disant tu n'as pas nommé Bertrand, donc on va aller avec toi.
Oui, mais vous pouvez l'interpréter comme un signe de faiblesse. Vous pouvez l'interpréter comme un signe de faiblesse aussi de la part de Bayrou.
Là-dessus, je vois le verre plutôt à moitié plein.
Bon, bah écoutez,
c'est ma façon de voir certaines choses.
Écoutez, c'est le propre des chefs d'entreprise, devant toutes circonstances, de garder un optimisme chevillé au corps. Donc, effectivement, il faut qu'on donne sa chance à cette équation. De toute manière, on n'a pas tellement le choix. Il faut qu'elle réussisse.
On n'a pas tellement le choix. François Bayrou, qui sera en direct ce soir à 20h30 sur BFM TV, pour donner les explications et puis parler un petit peu de l'avenir, évidemment, de la formation de ce gouvernement et de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Suivra nous, évidemment, très très précisément. Merci messieurs d'être venus ce soir en tout cas.
Absolument.
Il n'y aura pas de budget, mais on a un gouvernement ce soir. Eric Lewin, président de L Finance, Leonidas Kalogiropoulos, président de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci messieurs.
Merci
pour ce
gouvernement.
À très vite, dans un instant, l'info continue sur BFM Business. Oui, on a déjà, c'est Noël avant l'heure, on a un gouvernement. Nous, on se retrouve bien sûr, alors pas demain, on est le 24, on se retrouve jeudi 18h pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.